petite chronique. Esteban est là, il va se présenter comme un grand. J'ai déjà dit le prénom, mais il va nous dire le reste. La liberté de conscience des adultes, ça vous dit quelque chose, mais la liberté de conscience des enfants, des chiens, des chats, et puis la liberté de conscience de qui vous voudrez, de tout ce qui exhale, vibre et respire. Bonjour Esteban.
Bonjour. Bonjour, je m'appelle Esteban Minassian, je suis en 3e au collège Saint-Charles et je suis aussi stagiaire à Fréquence Mistral à Manosque. Je suis très content de pouvoir prendre la parole pour exercer ma liberté d'expression afin de partager avec vous les questionnements que j'ai eus après avoir vu un documentaire sur les jeunesses hitlériennes que vous avez peut-être déjà vu, appelé Seconde Guerre mondiale, jeunesse hitlérienne, l'endoctrinement d'une nation.
Mein Boden zitterte, es wummerte Moor. Als ich an einen dicken Beat mein junges Herz verlor. Seit damals gefällt mir die Stadt besser als zuvor. Wenn ich durch Berlin City cruise, ist Reggae mein Motor. Ich singe auf dem Fahrrad, mal Bass und Tenor. Zu Hause dreh ich Sound auf, die Nachbarn am Humor. Die stehen auf frische Downbeats aus meinem Record Store. Concrete Jungle, Supersonic Sound System Kultur. Wenn Party ist, dann sind wir on the dance floor. Der DJ macht den Vers und die ADs den Chor. Du versinkst im Bass wie eine Moorleiche Moor. Es zwingt dich in die Knie, denn der Rhythm ist Hardcore. Wir shaken was wir haben bis morgens 7 Uhr. Woanders gibt's ne Sperrstunde bei uns die Müllabfuhr. Dammbaum war ein dickes Rohr, kommt dann schon mal vor. Und blasen dicken Smoke durchs Brandenburger Tor.
Dickes B, oben an der Spree. Im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh. Mama Berlin, Backstein und Benzin. Wir lieben deinen Duft, wenn wir um die Häuser ziehen. Dickes B, oben an der Spree. Im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh. Mama Berlin, Backstein und Benzin. Wir lieben deinen Duft, wenn wir um die Häuser ziehen.
J'ai été frappée par le fait que toute une génération ait été manipulée. Le thème, c'est la liberté de conscience des enfants, et mon sujet s'intitule « Les jeunesses hitlériennes, les enjeux de la construction d'un esprit critique pour les jeunes ». J'ai choisi ce sujet parce que c'est important de connaître le passé, étudier l'histoire, car les événements du passé peuvent se reproduire. Après la guerre, on a dit, en parlant du génocide des Juifs, « Plus jamais ça ». On peut aussi dire cette phrase pour parler des jeunesses hitlériennes. Mais surtout, que faire pour que cela ne se reproduise pas ? Je vais donc vous faire part de mon analyse en trois questions. La première question, c'est comment est-ce que Hitler a fait pour embrigader la jeunesse ? Donc, il a embrigadé la jeunesse en fondant les Hitlerjugend, c'est-à-dire les jeunesses hitlériennes, qui organisent des camps de vacances comme les scouts. Il y a plusieurs types de jeunesse hitlérienne classées par âge et par sexe. Mais quand on parle des Hitlerjugend, on parle plus des jeunes garçons de 14 à 18 ans. Lors des soirées de ces camps, les chefs de brigade expliquaient aux jeunesses les principes du nazisme et inconsciemment les faisaient devenir des nazis fanatiques. Au début de sa création, les jeunesses hitlériennes ne comptaient que 50 000 membres environ. Puis peu à peu, Hitler a dissous les autres organisations comme les jeunesses communistes, les jeunesses chrétiennes et les scouts. Il a relégué à l'église les activités comme la messe qui ne plaisait pas aux enfants. Peu à peu, le seul moyen de pratiquer des activités sportives était de s'inscrire au Hitlerjugend. Bientôt, le nombre d'enfants aux jeunesses hitlériennes passa à près de 2 millions. Les activités au camp des Hitlerjugend étaient, sans que les enfants ne se rendent compte, des entraînements militaires déguisés, comme par exemple des jeux de terrain grandeur nature, avec une carte, une boussole, et où il fallait arracher le brassard des membres de l'équipe adverse. Des films sur les aventures des Hitlerjugend, où l'on voyait des membres de la jeunesse hitlérienne faisant des jeux, passaient au cinéma pour donner envie aux jeunes d'y participer. Dans les Hitlerjugend, seuls les braves étaient tolérés. Les plus faibles étaient blâmés, rabaissés. Parfois, ils se faisaient martyriser par leurs supérieurs. De plus, en 1939, Hitler rendit les jeunesses hitlériennes obligatoires aux enfants, ce qui fit que 92% des jeunes environ faisait partie des Hitlerjugend, soit plus de 5 millions d'enfants. Sans oublier qu'Hitler a aussi utilisé l'enseignement pour faire passer ses messages antisémites. Les manuels étaient pleins de phrases comme par exemple pour la leçon de lecture, les enfants crient « Heil Hitler !» les SA, c'est-à-dire la milice, marchent dans la rue. Ou alors, méfiez-vous du juif. De plus, ils devaient crier à longueur de journée « Heil Hitler !» c'est-à-dire « Vive Hitler !» dès qu'ils croisaient des soldats ou quand ils entraient dans l'école, avec une personne qui vérifiait s'ils le faisaient bien. Cela leur faisait ingérer le programme du parti nazi. Pour eux, Hitler n'était pas comme un père, mais plutôt comme un dieu. Les Hitlerjugend ont juré de donner leur vie pour Hitler. La deuxième question est « Pourquoi les jeunes ont-ils adhéré ?» La plupart des jeunes étaient issus de familles appartenant à des classes sociales aux moyens financiers limités. C'était des familles de classe ouvrière ou agriculteurs. Leurs enfants passaient leurs vacances au champ pour aider si leurs parents étaient fermiers, par exemple. Pour eux, la Hitlerjugend était un moyen inespéré de participer à des activités et de s'amuser. De plus, un uniforme était obligatoire et donné aux familles dans le besoin. Les membres de la jeunesse hitlérienne étaient heureux car des uniformes, ils en voyaient tous les jours, avec les soldats à les défiler. Ils se sentaient adultes, et surtout valorisés, car lors de ses discours, Hitler déclarait que les jeunes étaient l'avenir de la nation, et que la patrie comptait sur eux. Ils participaient aussi à des défilés, avec les autres Hitlerjugend, les faisant se sentir importants. Même si certains enfants ne voulaient pas y aller, ils participaient quand même, sinon leurs parents allaient être réprimés. Plus tard, en 1939, la guerre a été déclarée. Les Hitlerjugend en âge de se battre partent au front. Ils manient, pour certains d'eux, les canons anti-aériens et font un jour exploser 8 bombardiers, soit environ 30 personnes. Ceux qui ont participé à cette mission reçoivent la croix de fer, qui est une décoration de guerre allemande. D'autres Hitlerjugend sont devenus SS, Schutzstaffel, c'est-à-dire escadron de protection, qui, à la base, regroupe des gens protégeant Hitler, mais qui sont devenus multifonctions, et en général, ce mot désigne la troupe de soldats d'élite du parti nazi. Donc, les Hitlerjugend devenus SS ont un entraînement spécial. Pour eux, ils étaient l'espoir de l'Allemagne, la troupe qui allait sauver la patrie. Ils se battront jusqu'à la mort. Lors des bombardements alliés, les jeunesses hitlériennes ont dû s'improviser infirmiers et brancardiers. Ils ont vu leurs supérieurs scier le bras d'une civile coincée sous les décombres. Le bruit de la scie broyant les os, ça, ils ne l'oublieront jamais. Lors de l'attaque des Russes à Berlin, ils étaient aussi proches de la mort. En effet, à chaque coin de rue, ils risquaient d'exploser avec un obus ou alors de croiser un Russe qui pouvait les mitrailler. Dans le documentaire dont je vous ai parlé au début, un ancien Hitlerjugend a témoigné que lors de cette bataille, il est tombé nez à nez avec un Russe. Leurs mitraillettes étaient baissées toutes les deux. Ils se sont dévisagés, puis l'Allemand a reculé. Aucun des deux n'a tiré. Puis, ils se sont éloignés tous les deux. Un autre a témoigné qu'il s'était fait tirer dessus et qu'il a réchappé à la mort car il a attrapé l'arrière d'un tank qui s'éloignait et a quitté la ville en se faisant traîner. Ces hommes, devenus adultes, ont plus tard raconté quel enfer c'était. Ils ont mis du temps après la fin de la guerre à comprendre qu'ils ont participé à des atrocités sans qu'ils s'en soient aperçus. La troisième question est « Mais comment éviter qu'une telle manipulation psychologique se reproduise ?» Le film « Die Welle », la vague en français, est inspiré de faits réels. Un professeur veut prouver qu'une nouvelle emprise psychologique dans une dictature est possible. Pour cela, il met en place un régime autocratique avec tous les marqueurs. Il se nomme le leader, invente un signe, une vague, une tenue. Le film dépasse la réalité sur laquelle elle s'appuie et se termine sur un drame, car les élèves se sont pris au jeu. Ils harcèlent ceux qui n'en font pas partie, se bagarrent. Le professeur veut arrêter l'expérience, mais n'arrive pas à les raisonner. Ce que cela montre, c'est qu'il ne suffit pas d'être mis en garde, mais il faut être préparé. D'ailleurs, après la guerre, les Alliés ont rééduqué les Hitlerjugend en leur apprenant l'anglais et en leur montrant des films sur la cruauté de la guerre et des Allemands. Pour ceux qui n'y croyaient pas, les Alliés les ont emmenés dans des anciens camps de concentration. Ils ont pris conscience de l'horreur. Ils leur ont aussi appris à exercer leur esprit critique, c'est-à-dire la capacité à raisonner pour formuler un jugement personnel basé sur des connaissances en dehors de tout système d'influence. L'esprit critique est aussi la mise en place de la liberté de penser, de remettre en question des idées et d'en formuler de nouvelles. Pour qu'une telle manipulation psychologique ne se reproduise, il faut que les personnes dans l'institution préservent les libertés individuelles comme la liberté d'expression pour permettre aux jeunes de critiquer le pouvoir. Il faut aussi que les personnes dans l'éducation continuent à enseigner pour permettre à la jeunesse de connaître et d'être capable de pouvoir faire des choix en conscience. C'est aussi la responsabilité des familles, car elles sont les premières responsables de l'éducation des enfants. En effet, la maison est le lieu de dialogue et de transmission des valeurs. Il ne faut pas que les jeunes et les adultes cèdent à la frustration et à la peur, car c'est le ferment des systèmes totalitaires qui rejettent toujours la cause des problèmes sur une minorité innocente, un bouc émissaire. C'est important d'être vigilant, car ce qui s'est passé autrefois peut se reproduire. En effet, nous, les jeunes, devons être conscients que la liberté de penser, c'est-à-dire le droit pour toute personne d'avoir et de communiquer ses idées, ses opinions, etc., et la liberté de conscience, c'est-à-dire le droit pour toute personne de croire ou de ne pas croire à ce qu'elle veut, ne sont pas acquises et doivent toujours être défendues et mises en place par la liberté d'expression. Mes sources sont le film documentaire « Seconde Guerre mondiale jeunesse hitlérienne, l'endoctrinement d'une nation », le film « Divez-le » et Wikipédia. La musique au début de mon intervention est une chanson allemande parlant de la beauté de Berlin. Elle s'appelle « Dickes B », ce qui signifie « gros B », donc « B » pour Berlin en allemand. J'ai choisi cette musique car elle est belle et montre que malgré les taches de son histoire, l'Allemagne est un beau pays plein de vie. La musique de fin qui va suivre est aussi une chanson allemande sur la liberté d'expression. Elle s'appelle « Die Gedanken sind frei », ce qui veut dire « les pensées sont libres ». C'est aussi une chanson anti-nazie.
Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei. Ich denke, was mich beglücket, doch alles in der Still und wie es mich schicket. Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren, es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Und sperrt man mich ein, Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke, denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei, die Gedanken sind frei. Drum will ich auf immer den Sorgen sagen und will ich mich auch nimmer mit Grillen